Maxime Combe, bonjour.
Bonjour.
Maxime Combe, vous êtes économiste. Vous participez et êtes engagé dans Attaque France. Vous êtes spécialiste des enjeux environnementaux et énergétiques nationaux et internationaux. Vous écrivez notamment pour des revues telles que Mouvement ou Bastamag. Et puis, vous avez écrit notamment La nature n'a pas de prix, Crime climatique stop et ce dernier ouvrage, Sortons de l'âge des fossiles. Alors, ma première question est celle-ci. Pourriez-vous nous donner la mesure du réchauffement climatique aujourd'hui ? Vous commencez justement ce livre par l'exposition et l'exposé des enjeux qui sont devant nous et même présents aujourd'hui.
Le principal problème auquel nous sommes confrontés, c'est que le réchauffement climatique se conjugue au présent, c'est-à-dire qu'il a lieu aujourd'hui, alors que les politiques climatiques se conjuguent pour l'instant au futur. On a des engagements pour les années à venir en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris qui est entré en vigueur ne porte que sur la période après 2020. Et donc nous avons un décalage extrêmement fort entre ce qu'il faudrait faire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de politique climatique, entre ce qui serait souhaitable et en fait avec un décalage fort avec la réalité de ce que nous avons sur la table. Et cette réalité, elle nous conduit à plus de 3 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Donc c'est moins que les 5-6 degrés de réchauffement que nous aurions si rien n'était fait, mais c'est bien trop par rapport aux recommandations et préconisations des scientifiques qui considèrent qu'il ne faut pas aller au-delà d'un réchauffement climatique supérieur à 2 degrés. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous avons déjà atteint un réchauffement climatique d'1,1 degré, donc en plus par rapport à la période pré-industrielle, et ce qui conduit déjà à une accélération, une intensification des phénomènes climatiques extrêmes, à une fonte accélérée des glaces sur la planète, qu'elles soient situées au pôle ou dans les glaciers andins, himalayens, alpins et autres, et qui peuvent générer des stress hydriques, des inondations, des catastrophes climatiques fortes aux quatre coins de la planète. Et donc c'est pour ça que quand on a une situation extrêmement préoccupante, en ce sens où, alors que le réchauffement climatique fait déjà des dégâts, que nous constatons régulièrement, que les institutions internationales constatent et qu'ils le voient à travers différents indicateurs d'augmentation de la température mondiale, d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en termes d'élévation du niveau des eaux. Alors que nous observons tout cela, nous n'avons pour l'instant que des politiques climatiques qui renvoient à des engagements futurs. Et donc ça fait 25 ans qu'on négocie en matière de climat et depuis 25 ans, nous avons observé une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 60% et nous pourrions battre ce record-là chaque année d'ici à 2030 quand on prend les engagements que les États ont mis sur la table.
Alors, si on parle beaucoup de réchauffement climatique, on peut l'entendre beaucoup dans les médias, on parle déjà beaucoup moins des causes de ce réchauffement. Quelles sont-elles ?
Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion possible. Ça a été démontré, c'est-à-dire que le réchauffement climatique est lié à une origine anthropique, c'est-à-dire que ce sont les activités humaines qui génèrent ce réchauffement climatique qui est observé aujourd'hui de manière incontestable. Et ces activités humaines, elles accroissent le réchauffement climatique via l'émission de gaz à effet de serre et qui sont deux origines principales. Un, la combustion des énergies fossiles. Et cette combustion des énergies fossiles est à l'origine de d'une grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre. Après, ça dépend comment on compte, si on compte que le CO2 ou si on compte le méthane et d'autres. Et pour l'autre partie, plus réduite, elle est liée en fait à la modification de l'usage des sols qui peuvent être liés soit à la déforestation ou soit à l'intensification des pratiques agricoles. Et donc ces deux types d'émissions de gaz à effet de serre sont liés en fait à l'accroissement des activités humaines puisque les deux viennent en fait nourrir cette machine à réchauffer la planète. Et c'est une formidable machine à réchauffer la planète que nous avons là, qui est notre économie mondiale. Et donc c'est notre économie mondiale qui est à l'origine des réchauffements climatiques que nous constatons aujourd'hui.
Dans votre livre, vous utilisez l'image du feu sous la marmite. Est-ce que vous pourriez nous développer le sens de cette image et qui aussi développe aussi le propos du livre ?
La situation est relativement simple aujourd'hui. Nous avons affaire une dissociation extrêmement forte entre les engagements qui sont pris en matière de réchauffement climatique, qui portent vers le futur, et ce qu'il faudrait que nous fassions aujourd'hui. Et donc l'image que j'utilise dans le livre est effectivement celle de quelqu'un qui se retrouverait devant sa marmite en train de bouillir sur sa cuisinière, et qui se limiterait à essayer de contenir envers et contre tout la marmite sur la gazinière, en essayant de faire qu'elle puisse tenir là, éventuellement en essuyant un peu les contours, mais en se refusant finalement à baisser le feu ou à retirer la marmite de la cuisinière, ce qui serait normalement ce que nous ferions si nous étions dans la cuisine face à une problématique de ce type-là. Et donc ça, c'est, pour moi, ça caractérise la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui de constater l'existence du réchauffement climatique, d'avoir de manière extrêmement précise l'origine de ce réchauffement climatique, mais finalement, personne ne souhaite ni retirer la cuisinière, la casserole sur la cuisinière, ni réduire la puissance du feu qui fait que cette casserole est en train de bouillir.
Alors, évidemment, le feu dont on parle et ce qui réchauffe la planète, eh bien, ce sont les énergies fossiles, l'usage de toutes ces énergies-là. Quelles seraient les étapes qu'il faudrait respecter pour pouvoir sortir de ce processus-là?
Un des objectifs de mon livre est d'expliquer que la lutte contre le dérèglement climatique ne peut se faire d'un coup de cuillère à peau. Elle ne peut se prévaloir d'avoir une unique solution qu'il suffirait de mettre en œuvre. Et ceci est une réponse à la fois à ceux qui pensent que finalement il suffirait que la somme des individus que nous sommes transforme un petit peu ces modes de consommation, ces pratiques individuelles pour que la crise climatique soit résolue, et également une réponse à un certain nombre d'économistes qui finalement considèrent que la question n'est pas si grave et qu'il suffirait de mettre un prix sur la tonne de carbone relâchée dans l'atmosphère pour régler la question, comme si les marchés et les investisseurs, les acteurs économiques, les consommateurs que nous sommes allaient simplement pouvoir transformer l'intégralité de cette machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale, simplement en modifiant leurs comportements individuels. Pour moi, ces deux aspects-là, ces deux réponses-là à la crise climatique sont d'une certaine manière un peu aveugles et ne voient pas la complexité de la situation à laquelle nous faisons face. Et donc les étapes que j'essayais de mettre en lumière dans le livre, en termes de lutte contre les dérèglements climatiques, vise à montrer que nous avons toute une série de points extrêmement importants à régler avant d'en arriver éventuellement à mettre en place de la fiscalité écologique ou de la transformation des comportements individuels. Et ces points-là, ces verrous, tels que je les appelle dans le bouquin, sont nombreux. Le premier d'entre eux, c'est qu'il faut que nous arrêtions ceux qui, aujourd'hui, contribuent à accélérer le réchauffement climatique. Ce sont des criminels climatiques, ce sont ceux qui veulent fourrer toujours plus loin, toujours plus profond et toujours avec plus de conséquences sur l'environnement pour avoir accès à plus d'énergie fossile. Le deuxième point dur est de se rendre compte qu'on ne pourra pas sortir de l'âge des fossiles, tel que l'indique le titre du livre, sans à un moment donné participer d'une manière ou d'une autre à une définanciarisation du secteur de l'énergie, parce que finalement la financiarisation des multinationales de l'énergie, de ce secteur-là, conduisent à capturer le pouvoir des citoyens ou des pouvoirs publics ou des États qu'ils pourraient avoir sur la politique énergétique. Finalement, aujourd'hui, ce sont les marchés financiers qui dirigent la politique en matière énergétique et non plus les décideurs publics.
Parce que, précisément, ce que vous expliquez dans le livre, les marchés financiers ont pris des paris sur le futur qui fait que, d'une certaine manière, l'avenir est verrouillé en fonction de leurs intérêts, c'est ça ?
Par exemple, si nous décidions aujourd'hui de faire ce qui est nécessaire en matière de lutte contre le dérèglement climatique, ça revient à ne pas exploiter 80% des réserves d'énergie fossile que nous avons déjà mises en exploitation. Si demain Total, ou BP, ou Shell, devaient annoncer à leurs actionnaires que finalement ils ne peuvent pas exploiter 80% des réserves qu'ils annoncent chaque année comme pouvant être exploités dans les années à venir, leur valorisation boursière diminuerait sans doute d'autant dans l'heure ou dans les jours qui suivent. Et donc, du coup, on voit bien que les marchés financiers, en fait, ont entériné l'idée qu'il n'y aurait pas de sortie des énergies fossiles dans les années à venir, puisqu'il continue à donner une valorisation extrêmement forte à des actifs financiers qui sont basés sur l'exploitation de ces énergies fossiles. Et donc, d'une certaine manière, et je ne dis pas cela pour disculper le PDG de Total ou ces multinationales-là, finalement, ces multinationales sont tenues chaque année de pouvoir annoncer à leurs actionnaires qu'elles ont suffisamment de réserves en magasin pour continuer à exploiter les énergies fossiles. Et donc, du coup, il est de notre devoir de comprendre cette financiarisation du secteur de l'énergie pour la faire décroître. Et on n'est pas complètement sans outils pour cela. Il y a un profond, aujourd'hui, mouvement citoyen pour le désinvestissement des énergies fossiles qui donne à voir ce qu'il pourrait être fait de manière plus générale. Et par exemple, nous appelons le gouvernement français et nous appelons un certain nombre d'acteurs publics et parapublics à ne plus investir dans les énergies fossiles alors que nous avons des banques publiques de développement, des banques publiques tout court, mais également des banques privées qui continuent d'investir dans les énergies fossiles. Il est moral aujourd'hui d'exiger de leur part qu'elles se retirent de ces actifs-là et que petit à petit, on contribue à définanciariser le secteur.
Alors pour poursuivre, vous parlez et vous notez aussi le fait que le droit commercial international tel qu'il existe aujourd'hui a pour effet justement d'empêcher cette transition que l'on souhaiterait.
Le droit commercial international, le droit international qui porte sur la régulation des investissements internationaux est effectivement aujourd'hui un des verrous majeurs pour mettre en place une politique de lutte contre les dérèglements climatiques qui soit à la hauteur des enjeux. Prenons quelques exemples relativement simples. Barack Obama, avant de venir à la COP21, a décidé de ne pas construire et de ne pas délivrer le permis de construire d'un gigantesque pipeline qui doit permettre de faciliter l'exportation du pétrole issu des sables bitumineux du Canada vers le reste du monde. Ce pipeline, donc, n'allait pas être construit. L'entreprise canadienne a décidé d'attaquer cette décision de Barack Obama devant ce qu'on appelle le chapitre 11 de l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et qui est finalement un type de tribunal d'arbitrage privé qui, demain, pourra éventuellement donner raison à cette multinationale. Entre-temps, l'élection de Donald Trump lui a déjà donné raison, mais on voit là que finalement, quand un État même prend une mesure symbolique, la non-construction d'un pipeline n'allait pas tout régler. Finalement, les multinationales ont des pouvoirs pour lutter contre les décisions prises au nom de l'intérêt climatique contre les régulateurs. On a le même cas, similaire au Canada, où au Québec, une entreprise canadienne, via sa filiale qui est basée dans un paradis fiscal américain qui s'appelle le Delaware, a décidé, cette entreprise c'est Lone Pine Resources, a décidé d'attaquer le Canada parce que la province du Québec avait décidé de restreindre l'utilisation de la fracturation hydraulique pour l'exploitation des hydrocarbures de schiste. Et ceci après une mobilisation citoyenne très importante. Donc là, cette entreprise dit que c'est une décision capricieuse qui ne tient pas compte de ses attentes légitimes en termes de profits futurs. Et que donc, du coup, elle met en rapport le fait que ses profits futurs sont peut-être plus importants que la décision de réguler sur le plan environnemental prise par le Québec. Enfin, le dernier exemple, et qui est pour moi un exemple majeur et symptomatique du problème auquel nous faisons face, et nous vient également du Canada. Une province du Canada qui est l'Ontario, qui n'a rien de plus écolo que la moyenne, mais qui a décidé pour plein de raisons, finalement, d'organiser une sortie progressive du charbon. Et pour ce faire, d'expliquer à la population qui allait perdre donc des emplois via la fermeture de ces centrales à charbon et des mines de charbon, qu'une politique de transition énergétique basée sur le développement du photovoltaïque et de l'éolien pouvait être une bonne politique pour l'emploi, pour l'activité, pour la justice sociale, y compris sur le territoire de la province. Et pour cela, ils ont mis en place ce qu'on appelle un tarif de rachat préférentiel de l'électricité produite par le photovoltaïque et l'éolien, qui suppose que les entreprises allaient obtenir ce tarif de rachat préférentiel, donc un prix supérieur au marché, si elles utilisaient une majorité ou une bonne moitié de produits locaux et de main-d'œuvre locale. Ceci pour dire à la population, nous fermons les centrales à charbon, mais regardez, via ce dispositif-là, nous allons quand même créer des emplois. Et quand vous faites ça, finalement, vous donnez un avantage comparatif plus important à des entreprises locales qu'à des multinationales, parce que les multinationales sont bien embêtées pour se fournir localement en matériaux et en compétences, en savoir-faire, en compétences humaines. Et donc, du coup, les multinationales européennes et japonaises ont poussé le Japon et l'Union européenne à attaquer ce dispositif devant ce qu'on appelle l'organisme des règlements des différends de l'OMC, donc devant l'OMC, et ils ont gagné. C'est-à-dire que ce dispositif-là de soutien aux énergies renouvelables en Ontario a été considéré comme n'étant pas conforme aux règles du commerce international. Et donc l'Ontario a dû réviser son dispositif qui avait pourtant créé 20 000 emplois et permis de développer les énergies renouvelables. Ce dispositif n'était pas génial. Mais on voit bien là qu'il y a une contradiction fondamentale entre des règles du commerce international qui empêchent finalement de relocaliser les systèmes productifs, les systèmes de consommation et de production, et de favoriser l'emploi local au nom de la transition énergétique, une contradiction fondamentale avec ces objectifs-là qu'on peut juger légitimes dans un cadre de politique de transition énergétique, avec les règles du commerce international qui ne permettent pas cela.
Alors vous parlez notamment malgré ces rouleaux compresseurs, on va dire, de ces multinationales. Il y a quand même des résistances sur le terrain, sur des projets de forage et d'extraction. Il y a des résistances et des mobilisations. Quelles sont les différentes formes, justement, que prennent ces luttes ?
Pour résumer à grands traits, face à ces verrous qui sont des verrous extrêmement durs, féroces, et auxquels il faut s'attaquer, nous avons trois types d'entrées différentes. Le premier type d'entrée, c'est ce que nous observons sur le terrain et qui se développe effectivement face au projet d'extraction des énergies fossiles, mais aussi face à la construction d'infrastructures inutiles, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, de nouvelles autoroutes aux quatre coins du pays, et pas simplement en France, mais partout sur la planète. L'ensemble de ces mobilisations, on peut les regrouper sous un terme qui est assez simple, qui s'appelle « blocadia », qu'on a récupéré de l'utilisation qui en est faite en Amérique du Nord, et qui vise simplement à dire, à un moment donné, il faut bloquer les projets qui sont incompatibles avec la lutte contre les dérèglements climatiques. À ces résistances, qui sont fortes, et qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes, et qui sont notamment beaucoup liées aux populations qui vivent sur les territoires, et qui donc, du coup, essayent d'en prendre soin. Avec ces mobilisations sur le plan territorial, on n'a pas simplement l'idée qu'il ne faudrait pas que ces projets n'aient pas lieu chez nous, mais qu'il y a une dimension universelle également. C'est au nom de la transition énergétique, de la lutte contre le dérèglement climatique que ces mobilisations sont nous. Deuxième type d'initiatives citoyennes qui prennent de l'ampleur, et là aussi partout sur la planète, pourraient être regroupées derrière un autre terme un peu générique, qui est le terme « alternativa », et qui renvoie pas simplement à la mobilisation pour les alternatives telles qu'on l'a vu se développer autour de la COP21 organisée par justement le mouvement qui s'appelle « Alternativa » désormais en France, mais sous ce vocable, on pourrait retrouver l'ensemble de ces expériences, de ces initiatives citoyennes qui, aux quatre coins de la planète, essaient de faire vivre de l'agriculture locale, de l'agroécologie, qui essaye de relocaliser les systèmes productifs, qui essaye de réduire fortement les impacts sur l'environnement, les empreintes carbone ou écologiques, ces activités qui visent à donner du sens finalement au travail, à l'activité productive, et à essayer de tenir compte, aussi si difficile que ce puisse l'être, des limites de la planète. Et ces alternatives-là, elles sont importantes parce qu'elles ne donnent pas simplement à voir le monde de demain, celui que nous aimerions construire, mais elles permettent aussi de travailler un certain nombre de contradictions dans le monde d'aujourd'hui. Et également, elles nous permettent de mieux vivre aujourd'hui. Ça nous permet d'être mieux dans ce monde-là qui est un peu difficile parfois à supporter. Alternativa, blocadia, et tout l'enjeu, c'est d'arriver à ne pas opposer ces deux pratiques, ces deux types d'initiatives citoyennes, mais au contraire d'essayer de les coordonner et d'essayer de faire en sorte que les unes se renforcent avec les autres. Et donc d'essayer aussi de dépasser cette idée selon laquelle, et qui a été très présente dans le mouvement progressiste depuis des années, des siècles même, qu'il y aurait une opposition fondamentale entre ceux qui voudraient d'abord se changer soi-même, voudraient d'abord essayer de transformer leur propre existence, leur propre travail, leur propre mode de vie, donc finalement tout transformé par le bas, et ceux qui penseraient que finalement c'est dans la résistance, dans la révolution, qu'il faudrait d'abord... Non, mais tout cela se nourrit, se mêle, et c'est à nous d'hybrider tout cela et de le connecter à la troisième dimension fondamentale qui est finalement cet ensemble de luttes politique nationale et internationale, pas au sens politicien du terme, mais au sens du fait qu'il ne faut pas abandonner ces niveaux-là de mobilisation pour ne pas laisser le champ aux multinationales, aux acteurs qui ne veulent rien changer et qui, eux, ont investi ces champs pour faire en sorte que les politiques nationales et internationales soient à leur avantage et pas au nôtre. Et donc, c'est dans ce triangle-là, entre les batailles nationales et internationales, Blocadia et Alternativa, qu'il faut arriver à construire ce mouvement pour la justice climatique qui nous permette de faire face aux grands défis de ce 21e siècle, qui est de répondre à la crise climatique sans aggraver la crise écologique, parce qu'il y a toute une série de technologies qui nous sont proposées aujourd'hui et qui ne sont pas neutres d'un point de vue écologique, et tout en résolvant l'autre grande crise à laquelle nous sommes confrontés et qui a des impacts politiques aujourd'hui extrêmement forts, qui est la crise sociale, qui est la crise de l'emploi, la crise du chômage, et dont on voit les conséquences, le fut par exemple l'élection de Donald Trump.
Alors, vous parliez justement de l'innovation sociale de l'expérimentation et de l'innovation sociale comme ce qui dessine aussi une alternative à ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous développer, même si vous nous en avez déjà dit un mot?
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'innovation sociale en général, mais ce qui me semble important, c'est d'effectivement constater qu'on ne part pas de rien et que nous avons aujourd'hui plutôt une profusion d'initiatives citoyennes sur le terrain qui, de la MAP à des pratiques visant à reconfigurer et transformer le logement, les mobilités, notre façon de vivre, les pratiques économiques, que ce soit via des vieilles formes d'économie sociale et solidaire ou des formes renouvelées, des récupérations d'entreprises, des objectifs sociaux et écologiques donnés à des pratiques économiques. Nous avons là une profusion d'initiatives citoyennes qui peuvent être menées par des citoyens ou par des acteurs économiques dont l'ambition n'est pas de devenir les maîtres du monde et qui sont à valoriser et qui sont à développer et également à hybrider. Parce que l'enjeu n'est pas simplement de construire une niche, n'est pas simplement de construire une marge au capitalisme tel qu'il existe pour que ces initiatives-là perdurent au cours du temps. À un moment donné, il faut qu'elles puissent challenger le cœur du système. Et elles ne le feront pas toutes seules. Mais en se coordonnant, en s'hybridant, en prenant de plus en plus de place, si elles sont soutenues par des mobilisations de résistance et par des mobilisations politiques pour changer les politiques publiques au niveau national et au niveau international, elles peuvent être le ferment de la transformation du monde dans lequel nous vivons. Cette transformation-là, elle ne se fera pas du jour au lendemain. Elle sera le fruit d'un processus qui doit être le plus rapidement possible au regard de l'urgence climatique, mais qui va se construire sur la base de ce qui existe déjà. Et donc, inventer ce qui existe déjà est le meilleur moyen de faire en sorte que demain ressemble à ce que nous essayons d'inventer aujourd'hui, plutôt que de laisser le cours des choses, finalement, entre les mains des acteurs qui ne veulent rien changer.
Alors, juste dernière question. Vous notez notamment à la fin du livre l'importance des villes. Vous parlez des villes en transition, de la notion de lenteur aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ?
Parmi toutes les initiatives intéressantes qui sont en cours de développement, qui sont sur le terrain, nous avons effectivement un certain nombre d'acteurs dans des villes qui ont essayé d'entreprendre une transformation fondamentale des milieux urbains. Et dans ce cadre-là, nous avons deux types d'expériences assez fondamentalement différentes de par leur origine, mais qui finalement essayent de travailler la même question. La première de ces initiatives, c'est effectivement ce qu'on a appelé les villes en transition et qui viennent principalement du milieu anglo-saxon et qui sont à l'initiative d'un collectif de citoyens qui essaient de prendre en charge ces questions et de construire finalement la résilience de la communauté face aux catastrophes climatiques à venir, aux catastrophes environnementales ou simplement face à la raréfaction des ressources naturelles qui pourraient s'aggraver dans les années à venir. Et de dire que si on apprend aujourd'hui à vivre différemment, à transformer nos modes de vie, nous serons d'autant plus capables de vivre dans ce monde de demain qui aura fondamentalement changé. Et donc là, il faut bien comprendre que ce sont des initiatives citoyennes qui se fixent comme périmètre d'action, leur ville, leur quartier, pour essayer d'intervenir et développer des initiatives ou demander à ce que les politiques publiques changent au niveau de ce quartier ou au niveau de la ville considérée. Il y a une autre pratique qui est celle des villes lentes, des slow cities, qui vient un peu du même mouvement que le mouvement slow food, qui est né en Italie et qui vient là de mer, donc des représentants élus des populations qui considèrent qu'il faut effectivement changer de mode urbain. Et leur pratique est d'essayer de valoriser ce qui sont des consommations locales, de ne pas laisser s'installer trop de centres commerciaux sur leur ville et tout cela. Et c'est intéressant parce que donc du coup là, on a la capacité d'agir d'un maire et plus simplement de citoyen, donc avec des politiques publiques qui peuvent être plus structurantes et structurelles pour un territoire dans l'accompagnement des transformations à mettre en œuvre. Et de mon point de vue, la synthèse doit être inventée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer ces deux registres-là d'intervention, mais il faut à un moment donné faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble. Il ne faut pas qu'un maire ait cette volonté de transformer la ville sans à un moment donné que la population soit mobilisée. De la même manière, une population mobilisée à une échelle relativement limitée n'aura jamais l'impact que peut avoir une politique publique menée par un maire. Et tout l'enjeu, c'est de finalement que... Alors je le dirais, c'est un peu provocant parce que les deux dynamiques ont leur propre logique, mais c'est que demain, on n'est pas les slow cities d'un côté et les villes en transition de l'autre, mais que nous ayons les deux cumulés avec des maires et des populations qui contribuent fondamentalement à changer la donne.
Maxime Combes, merci donc pour cet entretien autour de votre livre « Sortons de l'âge des fossiles ». Merci.